France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City Sandinghausen.
Halia Radio Rosana Piperis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Pès.
Un jour dans le monde, c'est un jour loin de la Troisième Guerre mondiale ce soir.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
Alors évidemment, ça se passe dans le bureau ovale. C'était vendredi d'il y a combien ? On a oublié maintenant 3 semaines, presque un mois, entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Bonsoir Frédéric Ancel.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en géopolitique, vous êtes maître de conférences à Sciences Po, professeur à la Paris School of Business. Et vous sortez aujourd'hui « La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer ». C'est chez Odile Jacob. Merci au moins pour le titre. Parce que malgré tout, vous ne nous promettez pas la paix dans le monde. Hein, c'est très différent. Si on a choisi cet extrait pour commencer cette conversation, c'est Trump donc qui engueule Zelensky et qui lui dit « Vous allez provoquer la Troisième Guerre mondiale ». Si je vous ai bien lu, c'est pourtant paradoxalement précisément Trump et son rapprochement surprise avec la Russie qui contribuent à l'impossibilité d'une Troisième Guerre mondiale. En tout cas, c'est en partie ce que vous dites.
Eh bien oui, c'est un faux paradoxe. Mais ce n'est pas parce que les raisons morales sont désastreuses, c'est-à-dire l'abandon littéral de l'Ukraine par les États-Unis, qu'on se rapproche de la guerre. Parce que pour qu'il y ait guerre mondiale, par définition, il faut qu'il y ait projection de puissance dévastatrice de la part de grandes puissances capables, par ailleurs, de s'adjoindre des alliés. Mmh. Bon, plus la Russie et les États-Unis se rapprochent, plus, par définition, au moins à court et moyen terme, le spectre de la guerre mondiale s'éloigne. C'est tout à fait pénible à entendre parfois, notamment lorsque, et ce qui est mon cas, on considère qu'il y a un véritable abandon moral de l'Ukraine et d'ailleurs de l'Europe par Trump, mais objectivement, mécaniquement, la guerre mondiale est en train de s'éloigner.
Ça veut dire qu'on reste dans les grands fondamentaux, en fait. Une guerre mondiale n'est jamais déclenchée par des pays de moindre importance, comme ça n'a jamais été le cas d'ailleurs.
Absolument. Si vous voulez, à la guerre, et a fortiori à la guerre mondiale, ou pour qu'il y ait en tout cas internationalisation de la guerre, il faut une projection de force à la fois politique et militaire extrêmement considérable. Et ça, seules des puissances elles-mêmes considérables peuvent y pourvoir.
Alors, mais le critère de l'imprévisibilité, et au fond celle de Trump, est-ce qu'elle est dissuasive, l'imprévisibilité de Trump ? On se souvient tous de cette phrase « I'm fucking crazy » qu'il avait dit à Xi Jinping au sujet de son invasion ou pas de Taïwan. Est-ce que l'imprévisibilité de Trump, au fond, là aussi, nous éloigne d'une perspective de guerre totale ?
Oui. Si cette imprévisibilité est organisée, si elle procède d'un exercice, s'il s'agit de créer une espèce de brouillard psychologique et diplomatique rendant l'initiative virulente de l'autre ou d'un adversaire dangereuse, parce que cet adversaire, évidemment, il va réfléchir à deux fois. Mais attention, si cette imprévisibilité n'est pas pensée, si elle relève d'un ego surdimensionné, si elle relève d'une politique complètement foutraque, le problème avec Donald Trump, c'est de savoir quelle est de faire la part des choses. Quelle est la part de son imprévisibilité organisée et la part de celle qui ne l'est pas. Et ça, c'est extrêmement compliqué.
Mais ça provoque une déflagration mondiale quand on n'arrive pas à capter cette imprévisibilité, et surtout si effectivement dans quelque chose de foutraque, comme vous dites, elle peut mener, je veux dire, on peut déclencher une guerre par accident, en quelque sorte.
Eh bien oui, et en tout cas par mésestimation de la volonté de l'autre. Mais vous savez, on peut prendre le cas paradigmatique qu'on a tous étudié dans nos bouquins à l'époque en classe de première et parfois de terminale. La Première Guerre mondiale commence notamment par une mésestimation de la détermination de l'autre, sauf qu'à l'époque, on a un entrelac, c'est le fameux syndrome de l'été 14, on a un entrelac, donc un entremêlement, si vous préférez, d'alliances militaires extrêmement serrées, et que, à cause notamment de l'Autriche-Hongrie et de l'affaire serbe, sans entrer dans les détails, eh bien, tout le monde s'effondre, en quelque sorte. Or là, ça ne peut pas se produire, parce qu'il n'y a pas d'alliance militaire mondiale, sauf l'OTAN. Mais il ne vous aura pas échappé que l'OTAN, elle-même aujourd'hui, est en train d'être vidée de sa substance.
Mais alors, est-ce que ça veut dire, parce que votre raisonnement, qu'on comprend bien, repose sur des arguments qui sont raisonnables, justement, et qui sont même rationnels. Et vous dites d'ailleurs que l'une des raisons pour lesquelles Trump n'ira jamais, c'est parce que c'est un mercantile, ce sont les mots qui sont à vous. Il est isolationniste aussi, il a une population de toute façon qui n'ira pas. En face, il y a Poutine. Poutine est un expansionniste. Donc si la guerre mondiale n'aura pas lieu, est-ce que c'est pas précisément parce que nous allons le laisser faire, au fond, et que ce fameux article 7 qui est censé nous lier, nous, à l'OTAN, jamais on ne l'utilisera ?
Eh bien, d'où l'importance de l'Europe puissance. pour laquelle je milite en tant qu'universitaire depuis très longtemps, parce que il faut que nous reprenions notre destin en main. Vous avez raison, hein. Je pense que Trump, et d'ailleurs il l'avait dit, franchement c'est pas nouveau, il nous avait averti de cela. Simplement on a pensé que c'était une parenthèse ou qu'il n'était pas sérieux. Maintenant il revient et il va vider de sa substance l'OTAN, voire peut-être même la casser. Et de ce point de vue-là, Monsieur Poutine, dont vous avez raison de rappeler que lui, pour le coup, est très expansionniste, sera arrêté, non pas nécessairement par des forces essentiellement américaines, mais par des forces européennes, si nous le voulons bien. Et nous avons encore aujourd'hui notre destin en main.
Alors c'est le sens de ma question. Si Vladimir Poutine, demain, pour voir si c'est chaud, met le pied en Estonie, par exemple, de fait, nous sommes obligés de répliquer. Est-ce que ça, c'est pas une déflagration mondiale, ou est-ce qu'on ne le met pas dans cette catégorie, si je puis dire ?
S'il le fait demain, et si M. Trump respecte encore aujourd'hui ce qui relève du cahier des charges, de l'ADN en quelque sorte, de l'OTAN, dont je rappelle que c'est la première, et d'ailleurs quasiment la seule alliance militaire au monde, et qui est extrêmement puissante, et beaucoup plus que l'armée russe, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a risque de déflagration mondiale. Ça, c'est une certitude. Mais c'est la raison pour laquelle, à mon avis, je peux me tromper, M. Poutine ne le fera pas. Au fond, Poutine, jusqu'à présent, y compris d'ailleurs, avec l'affaire ukrainienne, a joué d'une relative prudence. Entendez-moi bien, je mets ça entre guillemets, c'est-à-dire qu'il ne pensait pas en Géorgie, en Transnistrie, en Crimée, et même en Ukraine il y a 3 ans, pensant que nous n'allions pas réagir, il ne pensait pas à quelque chose d'extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, l'Ukraine, et pour cause, n'appartient pas à l'OTAN.
C'est vrai qu'il ne pensait pas à quelque chose d'extrêmement dangereux, mais à l'inverse, nous ne pensions pas, au nom des arguments raisonnables, au nom du rationnel, tous autant qu'on est, y compris Volodymyr Zelensky, souvenez-vous qu'il n'entendait pas ce que disait la CIA. Personne ne pensait qu'il y allait parce qu'il n'avait aucun intérêt. Et pourtant, il l'a fait.
Eh bien, vous avez raison. Et de ce point de vue-là, et j'en prends ma part, et de ce point de vue-là, il faut revenir aux années 20-30. Nous autres, occidentaux et surtout européens, notamment lorsqu'on est des humanistes et des gens modérés, nous ne tenons pas suffisamment compte de la rationalité de l'autre, qui est différente, bien sûr, de la nôtre, qui est d'une autre nature. Mais les hommes d'État et de gouvernement très clairement impérialistes et nationalistes, en général, c'est pas toujours le cas, mais en général, ils vont jusqu'au bout de ce qu'ils veulent faire. Ça avait commencé finalement avec Mussolini dès les années 1920. Et je vous passe évidemment Hitler, Staline, etc. Et donc, on a refait l'erreur. Vous avez raison, il y a 3 ans, avec Poutine, mais une petite nuance quand même. Encore une fois, j'insiste, l'Ukraine, pour lui, était censée être un morceau facile. Il s'agissait simplement de chasser Zelensky de Kiev, de ne pas aller jusqu'à Lvov et jusqu'à la frontière polonaise. De toute façon, ses chars n'ont même pas réussi à faire que 50 km près de Kiev, et de mettre un fantoche à la place. Et il pensait que nous n'allions pas réagir. Autrement dit, je vous rejoins, on s'est trompé, sauf que M. Poutine s'est trompé aussi.
Quand il y va, je vous pose cette question parce que vous taillez un short, mais très sérieusement, ce fameux choc des civilisations d'Huntington dont on s'est beaucoup repaît au fond ces derniers temps, vous le rhabillez vraiment pour l'hiver, vous dites le choc des civilisations ça n'existe pas, qu'est-ce qu'on dit du choc des valeurs? Parce que là aussi, je m'interroge sur le fait que c'est au nom de ces valeurs-là, les valeurs russes, que Vladimir Poutine est entré en Ukraine et peut-être ira plus loin.
En tout cas, il les instrumentalise. Il instrumentalise la rhétorique des valeurs, donc prétendument russes. En réalité, fondamentalement, ce qu'il souhaite, et d'ailleurs il le dit au moins autant, c'est de reconstituer l'empire que fut celui de l'URSS, voire même celui de Catherine II de Russie. Et il joue sur les valeurs, stigmatisant très durement d'ailleurs ce qu'il appelle la décadence européenne. Alors attention, parce que s'il y a des valeurs occidentales, est-ce que M. Trump et M. Vance en sont porteurs?
Ben oui.
J'en doute très fortement. Autrement dit, je pense que l'Europe, et je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que l'Europe, non seulement du point de vue de ses propres intérêts, parce que nous devons garder notre destin en main, mais aussi, c'est pas seulement une question d'intérêt mercantile, c'est une question de valeurs profondes, nous devons pouvoir les défendre, et je vais vous dire franchement, on ne se défend pas qu'avec le commerce, et encore moins avec des prières demandées aux Tibétains face aux Chinois. On se défend aussi avec le politique, le stratégique et le militaire.
Vous dites que vous ne croyez pas effectivement, vous argumentez à une guerre mondiale, à une guerre totale, ce qui n'empêche pas effectivement les guerres ici et là, ça, il y en a toujours eu, hélas, il n'a jamais cessé d'y en avoir, mais ce que vous dites surtout, c'est que ce qui nous prévient d'un effondrement généralisé, ce sont les peuples. Alors c'est plutôt une très bonne nouvelle, vous dites une chose demeure, les pouvoirs craignent tous de chuter sous l'effet de l'exaspération sociale de la population dont ils ont la charge partant de vaches maigres, et les plus autoritaires d'entre eux redoutent encore plus une contestation populaire qui prendrait la forme d'une catharsis faute d'expression électorale libre. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais j'allais dire, en êtes-vous sûr, Frédéric Ancel, son peuple, Vladimir Poutine par exemple, on a vraiment l'impression qu'il s'en fiche, il l'envoie comme chair à canon en ce moment.
Alors c'est vrai, sauf que M. Poutine craint beaucoup plus la contestation éventuelle de maman russe qui serait exaspérée par un nombre beaucoup trop important de jeunes gens revenant dans des cercueils, ouais. Absolument, que par l'armée ukrainienne, qui les ferait beaucoup moins. Alors, est-ce que j'en suis sûr? En tout cas, je me suis fondé ces dernières années sur un nombre très important d'enquêtes d'opinion, de sondages, de rapports sociologiques sur des temps relativement longs, d'expériences aussi, de manifestations de rue, d'usage des réseaux sociaux, et des États-Unis à la Turquie, de l'Ukraine à la Russie. En passant d'ailleurs par le Proche-Orient, regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui.
Oui, oui.
La manifestation anti-Hamas dans la bande de Gaza.
Ah, ouais.
Regardez ce qui se passe de l'autre côté en Israël. Mmh. Eh bien, je constate que sur une grande partie de la planète, beaucoup de populations sont exaspérées par des risques de guerre et le disent de manière extrêmement forte à des gouvernements qui, par ailleurs, sont souvent nationalistes. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et je vais vous dire, c'est relativement nouveau au regard de ce que j'ai pu faire depuis en 35 ans de géopolitique déjà.
Ce qui est intéressant, c'est que vous dites par exemple que Xi Jinping, typiquement, qui pour le coup a l'air le plus clair dans sa tête, au fond, si on compare avec Trump, si on compare à Poutine, vous dites qu'il ferait bien de se méfier de son peuple, lui, en rappelant quelques épisodes. Pendant le confinement notamment, on a peut-être été au bord de la rupture avec le peuple chinois. Peut-être que c'est le premier qui devrait se méfier s'il avait envie d'une aventure taïwanaise.
Et je pense que c'est le premier qui s'en méfie. Parce qu'il y a un véritable un accord tacite mais très profond passé entre le Parti communiste chinois et la population sur la base duquel un, vous aurez la sécurité, deux, la paix, trois, la prospérité. Moyennant quoi, vous ne faites pas de politique et vous nous laissez gérer intégralement la politique intérieure et extérieure. C'est exactement ce qui se passe. Or, effectivement, cet exemple-là nous donne un paramètre en quelque sorte, un seuil de supportabilité en quelque sorte pour la population chinoise. Et j'ajoute un point très important, c'est que, et je le dis dans cet ouvrage, la dissuasion, pas seulement nucléaire, mais la dissuasion reste aujourd'hui un phénomène absolument présent, y compris lorsque des régimes politiques sévères, voire même autoritaires ou dictatoriaux, ont affaire à leur propre population, parce que ces régimes-là, ce qu'ils veulent prioritairement, c'est rester au pouvoir.
Alors vous m'avez fait rire d'une certaine façon, c'est tout au début de votre livre, où vous dites qu'au fond on galvaude des mots, je pense à ça, parce qu'effectivement le mot de guerre mondiale, on l'a beaucoup prononcé ces derniers temps. Dans la série des mots qui sont galvaudés, vous parlez de guerre, de paix, de conflit, alliance, hostilité, menace, forte et faiblesse, nord-sud, stratégie, crise, bouleversement, carrefour. Avant, après, je me suis dit, merde, c'est un truc pour nous, ça. Les journalistes, on l'a employé combien de fois, ce genre de mots, dans ce genre de circonstances-là. Est-ce que pour calmer l'atmosphère qui est la nôtre aujourd'hui, Frédéric Ancel, il faut remettre les mots à leur place, en fait.
Non seulement il faut ne pas galvauder, il faut absolument hiérarchiser l'information et la quantité hallucinante d'informations qui nous arrivent, et surtout ne pas adopter de posture apocalyptique. Ce n'est pas parce que le monde est objectivement dangereux qu'il faut adopter ou emprunter une atmosphère anxiogène. Et je le dis systématiquement, notamment dans cet ouvrage, adopter une posture pessimiste ou apocalyptique n'a aucune espèce d'utilité analytique en géopolitique.
Frédéric Ancel, puisque je vous tiens et que Volodymyr Zelensky vient d'arriver à Paris, qu'est-ce qu'il gagne en ce moment et qui est-ce qui avait intérêt à négocier dans ces négociations qui ont lieu? On a l'impression que Poutine a tout pris au fond puisqu'il a mis des conditions partout et qu'en plus il peut jouer la montre.
Alors oui et non, parce que Poutine, il y a 3 ans, a définitivement perdu de manière stratégique, c'est-à-dire qu'il voulait toute l'Ukraine, il ne l'aura pas, il voulait dégager Zelensky, il ne l'aura pas dégagé. En revanche, je vous rejoins, il aura gagné, et il va gagner lors d'un cessez-le-feu tactiquement. Pourquoi ? Parce qu'il aura conquis 20% de territoire ukrainien, mais à la fin des fins, au regard de son objectif originel, c'est franchement assez peu, surtout pour un coût économique et humain qui est quand même désastreux.
La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer, c'est votre livre, Frédéric Ancel, publié chez Odile Jacob. Merci beaucoup.
Merci à vous.
La suite, ce soir, c'est le reportage d'Un jour dans le monde et ça se passe à Kyoto, figurez-vous, au musée du manga. Pour aller jusqu'à 19h, il y a Kevin Dufresne sous les radars.
En Allemagne, la nouvelle star du foot n'est pas un joueur.
Le Monde à 18h50, c'est vous Louise Baudet ce soir. Bonsoir Louise.
Bonsoir, je vous parlerai de l'Arménie, ce petit pays du Caucase, ex-satellite soviétique qui veut se rapprocher des Européens.
Et le cinéma en VO, Corinne Pellissier, salut Corinne.
Bonsoir, Barack Obama voulait le fermer, Donald Trump lui veut l'agrandir. Guantanamo est au cœur d'un film ce mercredi soutenu par Amnesty International dans le cadre de son festival pour les droits humains.
Allez, à tout de suite, restez avec nous. Les amis, le tour de la planète commence à peine. Il passe par le Royaume-Uni avec The Cure. All I ever am. Ever am.
C'était ça, vous l'aviez bien dit dès le début.
Oui, non, mais enfin bref, Cure, quoi. Robert Smith, tout ça, les cheveux, comme ça.
Smile more, I misremember, hope was. la Slam Dunk de No Inoue, donc une série culte des années 90, qui a rendu populaire le basket au Japon. Et c'est une série qui cartonne en Chine en ce moment. Donc voilà, il y a un côté comme ça qui traverse les générations.
Le reportage est au Japon ce soir, celui que vous venez d'entendre, que vous entendrez encore, il s'appelle Léopold Dahan, c'est un Français mordu de manga au point de déménager il y a une dizaine d'années à Kyoto. Kyoto qui accueille un impressionnant musée consacré à la culture locale de la bande dessinée. Le musée va fêter ses 20 ans dans peu de temps et Léopold y est tous les jours pour animer des visites guidées, répondant ainsi à la forte demande des touristes français. Pas seulement, bien sûr, il y a d'autres curieux, mais vous allez voir qu'on parle vraiment français partout dans ce musée. Et le reste, c'est Alexis Demeyer qui raconte.
Dans une ancienne école, au parc Ekigrinse, en plein centre de Kyoto, se déploie le lieu de pèlerinage des fans de manga. 300 000 ouvrages, dont 50 000 en accès libre, sont classés chronologiquement de 1912 à nos jours. Une mine d'or pour notre guide Léopold, qui nous entraîne vers le rayon de l'année 1947.
Voilà, j'ai pris un livre pour montrer, voilà. D'où ce manga, là, cet engouement qui est en France, d'où ça vient. Dire, bah, là, tout le monde est d'accord, il y a un consensus. Donc Shin Takarajima, donc, c'est une adaptation très très libre de Stevenson, de La Nouvelle Île au Trésor. Et donc ce sont des histoires dessinées par Osamu Tezuka, considéré comme le dieu du manga contemporain, donc, pour son influence et même l'ampleur de sa production. Il dessine ça quand il a 18 ans. C'est essentiellement visuel, il y a un côté comme ça, un peu slapstick dans les personnages, les expressions, les façons d'exprimer le mouvement, beaucoup de lignes de vitesse. Voilà, ça va vraiment lancer toute la grammaire visuelle du manga qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et à lire maintenant, c'est très rigolo. C'est un peu désuet, mais c'est rigolo. Ça, c'est encore très bien. Et en fait, c'est l'arrivée du dynamisme, comme ça, comme si c'était un dessin animé écrit. Et ça va lancer des vocations et surtout captiver toute une génération de lecteurs. C'est ça qui va donner le point de départ pour le manga contemporain. Par imitation, plein de lecteurs de La Nouvelle Île au Trésor vont se lancer dans le manga.
Notamment les créateurs des mythiques sagas Albator et Cyborg 009, et même le dieu vivant Hayao Miyazaki. Mais malgré cette histoire et cet héritage formidablement mis en lumière dans la grande exposition permanente, les Japonais sont encore nombreux à trouver incongru de muséifier le manga. Yosho Chang est membre du conseil scientifique du musée et professeur de manga à l'université Seika de Kyoto, pionnière en la matière.
Je sais bien qu'en France, vous considérez le manga et plus généralement la bande dessinée comme un art, mais les Japonais rechignent à adopter ce point de vue. Néanmoins, cette perception européenne de la BD est de plus en plus partagée à l'échelle mondiale, alors ça intrigue le public japonais qui se dit qu'il doit bien y avoir des raisons à cette sacralisation du 9e art et notamment du manga. Malgré tout, beaucoup de Japonais rejettent encore catégoriquement sa dimension artistique. Alors ici, on multiplie les expositions et les animations pour célébrer la culture du manga et on pense que ça peut intéresser nos visiteurs locaux qui sont encore habitués à en consommer comme un simple divertissement, car ce musée permet de montrer tous les aspects qui font du manga un art et une culture essentielle au Japon.
Cette grande spécialiste du manga poursuit inlassablement son travail pédagogique, comme lors de cette conférence avec des jeunes du quartier des Coteaux à Mulhouse qui préparaient ce voyage au Japon depuis 2 ans. Yacine, 17 ans, est subjugué.
J'ai parlé un peu avec elle de certains dessins animés que je regardais quand j'étais petit peu, quand j'étais petit. Par exemple, Shin-chan ou Doraemon. Et maintenant, je découvre que ça fait très très longtemps qu'ils sont sortis. Mais c'est aussi bien de découvrir un peu les différences, les différentes facettes, etc.
Et ça parle français à tous les étages du musée, non loin de la longue file d'attente pour se faire portrait façon manga. Prune savoure la visite en compagnie de ses parents et de son frère.
Moi j'ai trouvé ça très instructif et puis j'ai appris que les mangas c'était surtout inspiré de la culture occidentale. Et... Par exemple, je sais plus pendant quelle année ou quoi, mais les personnages étaient totalement transformés, des grandes jambes, une toute petite tête, etc. Parce que c'était le modèle occidental typique.
Parmi les 100 000 touristes étrangers qui visitent chaque année ce temple du manga, beaucoup ont découvert cette culture mondialisée grâce à la télé et aux fameux animés Dragon Ball, Olive et Tom, Cat Size et plus récemment One Piece et Naruto.
Alexis Demeyer pour le reportage. Alexis, merci beaucoup, à très vite. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche.
zagrebačkoj trešnjevci nalazi se takozvani prozor
život. Et c'est d'abord en Croatie que nous sommes, Kevin, où une boîte fait beaucoup réagir.
Une boîte à bébés installée à Zagreb par une association conservatrice proche de l'église catholique. Il s'agit en fait d'une sorte de boîte encastrée dans un mur où les femmes qui ne souhaiteraient pas garder leur nouveau-né peuvent le déposer. Un espace chauffé, muni d'un petit lit. Si la porte est ouverte, les membres de l'association reçoivent une alerte sur leur téléphone. Les militantes pour les droits des femmes y voient une initiative clairement anti-avortement dans un pays où beaucoup de médecins invoquent la clause de conscience pour ne pas pratiquer l'IVG. L'association Bethléem Zagreb appelle ce dispositif « fenêtre de vie » et sa responsable affirme que le but est de, je cite, « sauver des vies et éviter des infanticides », assurant avoir eu le déclic lorsqu'un nourrisson a été retrouvé l'an dernier dans une poubelle dans la capitale croate. Plusieurs associations féministes demandent le retrait de cette boîte, affirmant que ça pousse les femmes à mener à terme des grossesses non désirées. D'après Bethléem Zagreb, ça existe dans 10 autres pays européens, dont l'Allemagne, l'Italie et la Belgique, à qui le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies demande de cesser de les utiliser. Le gouvernement croate, dirigé par les conservateurs, a lancé une inspection.
Designation del comandante jefe de las fuerzas militares del ejército de Nicaragua.
Et nous voici maintenant au Nicaragua, qui désormais a deux chefs des armées.
Une nouvelle illustration de la dictature qui s'étend sur ce petit pays d'Amérique centrale. Hier, le Parlement, entièrement aux ordres du pouvoir, a approuvé une réforme stipulant que l'armée du Nicaragua est désormais sous le contrôle de la présidence de la République de façon générale en tant que commandante suprême. Sauf que depuis deux mois, la présidence est bicéphale. Le président, depuis 18 ans, Daniel Ortega, a fait modifier la constitution pour que sa femme, Rosario Murillo, devienne co-présidente. Ils sont donc tous les deux chefs des armées. Le couple a désormais absolument tous les pouvoirs, réduisant à néant toute opposition. Depuis les grandes manifestations de 2018, plus de 300 opposants ont été tués au Nicaragua, d'après l'ONU.
Et puis nous sommes en Allemagne avec une nouvelle star du foot assez inattendue.
Ah oui, parce que dimanche soir, lors de la qualification de l'Allemagne en Ligue des Nations face à l'Italie, il n'était pas sur le terrain. Enfin, pas vraiment, puisqu'on parle ici de Noël Urbaniak, 15 ans et ramasseur de balles. On est à la 35e minute du match. Le gardien italien Donnarumma fait un arrêt de grande classe. Le ballon sort donc en corner. Corner joué très vite par Kimmich pour Musiala qui marque dans le dos de Donnarumma, occupé en fait à discuter à ce moment-là avec l'arbitre. Et si les Allemands ont pu jouer aussi vite ce corner, c'est parce que notre ami ramasseur de balles a donné très vite le ballon à Joshua Kimmich. Détail ô combien important quand on sait que l'Allemagne s'est qualifiée pour un but. Résultat, Noël est devenu l'homme du match dans son pays.
Wie ist das zustande gekommen bei diesem Eckball?
Et il a même eu droit, on l'entend là, à l'interview d'après-match en direct à la télé allemande au bord du terrain comme un joueur. À l'issue du match, Kimmich lui a dédicacé un ballon et sur les réseaux sociaux, la Mannschaft l'a qualifié de meilleur passeur de match. Tu m'étonnes et son compte TikTok explose depuis, dit-il.
Alors en tout cas, les images sont dingues. Allez voir ce pauvre goal qui est en train de discuter avec l'arbitre, en train de l'engueuler d'ailleurs, visiblement.
Et c'est sur la page de Sous les radins sur France Inter.
Exactement, qui voit passer le ballon juste derrière lui. Kevin, merci. Vous reviendrez demain, vous partez avec Paolo Conte.
Ça, c'est une bonne idée.
Eh bien, absolument, Via Con Me, une pépite de l'année 1980.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica. E di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-di-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. dati du di du ci bom ci bom bom dati du di du. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Dati do di do, chi bom, chi bom bom. Dati do di do, chi bom, chi bom bom. Dati do di do.
Paolo Conte sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h49, c'est Louise Beauté.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saint-Es. Le 18-20.
Et c'est en Arménie que nous allons ce soir, Louise. L'ancienne République soviétique toque aujourd'hui à la porte de l'Union. Et vous nous expliquez pourquoi ce pas vers l'Occident est surtout un signal adressé à la Russie.
Oui, signal à la Russie et signe d'un temps où toutes les alliances sont remises en cause. Par 64 voix pour et 7 contre, le Parlement arménien a acté ce matin la candidature du petit pays du Caucase à l'entrée dans l'Union européenne. Alors la route sera longue, sans même parler du processus d'adhésion lui-même et de l'accueil que réserveront les 27 à cette demande. Elle doit faire l'objet en Arménie d'un référendum, autrement dit d'un soutien populaire inscrit dans la durée. C'est ce qu'a reconnu le Premier ministre Nikol Pachinian. Mais le signal à la Russie est clair. L'Arménie veut s'émanciper de son puissant voisin et protecteur. Elle ne veut plus être un satellite de Moscou et entend pour cela diversifier ses partenariats.
Alors, d'où vient la brouille, Louise ?
Alors d'abord d'un sentiment de trahison. Les Arméniens reprochent à la Russie son manque de soutien face à l'Azerbaïdjan, l'ennemi atavique des décennies de conflits à propos du Haut-Karabakh, ce bout de territoire azerbaïdjanais à majorité arménienne, enclave séparatiste reconquise par l'Azerbaïdjan à l'automne 2023, sans que les 2000 soldats russes présents n'interviennent. Moscou est pourtant l'allié historique de l'Arménie, mais la Russie a trop à faire ailleurs, en l'occurrence en Ukraine. Alors depuis, les armes se sont tues, l'Arménie et l'Azerbaïdjan viennent de s'engager sur un accord de paix. Mais le départ forcé des 100 000 Arméniens du Haut-Karabakh pèse sur la société arménienne, alimente l'instabilité politique et accroît la défiance vis-à-vis de Moscou. Moscou perçue davantage comme une menace désormais que comme une garantie de sécurité.
Louise, l'Arménie veut s'éloigner de la Russie, mais est-ce qu'elle en a vraiment les moyens ?
Alors c'est compliqué. Hein. Les signes tangibles de défiance se sont multipliés depuis un an et demi. Adhésion de l'Arménie à la Cour pénale internationale qui poursuit, comme vous le savez, Vladimir Poutine. Exercice militaire conjoint avec les États-Unis et donc rapprochement de l'Union européenne. Mais la Russie reste un partenaire majeur en matière de défense d'abord. Elle détient toujours une base militaire permanente à 120 km au nord de la capitale arménienne. Et puis l'Arménie reste membre de l'organisation du traité de sécurité collective, une alliance militaire pilotée par Moscou, même si elle a gelé en pratique sa participation.
Et puis la Russie est de très loin le premier partenaire économique de l'Arménie.
Oui, elle représente plus de 40% de son commerce extérieur contre 7,5% pour l'Union européenne. Les échanges ont même bondi depuis 2022, les entrepreneurs arméniens profitant des sanctions occidentales imposées à Moscou. La Russie, c'est le débouché économique de l'Arménie, petit pays enclavé, coincé entre l'Azerbaïdjan et son protecteur turc. Enfin, et c'est le plus important, Moscou est le principal fournisseur de gaz et de combustible nucléaire, le chantage à l'énergie qui fonctionne à plein. Et l'exemple de la Géorgie voisine, soumise à une pression russe maximale, rend les autorités arméniennes prudentes. Elle lance le processus d'adhésion à l'UE, oui, tout en affirmant que le chemin sera long. Surtout, ne pas insulter un avenir rendu encore plus incertain par le réchauffement des relations russo-américaines.
Louise Baudet, merci beaucoup. Le cinéma en VO, comme chaque mercredi, c'est Corinne Pellissier.
Moteur. France Inter.
And Oscar goes to...
Un jour dans le monde.
I said keep your head down.
Fought alongside bin Laden and you've continued to wage jihad since the end of the war. We know this.
À l'heure où Donald Trump, Corinne, semble vouloir l'agrandir et même le réhabiliter pour y mettre les sans-papiers, les demandeurs d'asile. Le cinéma nous ouvre aujourd'hui les portes de la prison de Guantanamo avec cette fiction, I Am Gitmo, inspirée du parcours d'anciens détenus qui nous rappelle, au cas où on en aurait besoin, l'hérésie qu'est ce camp où on a torturé et enfermé dans des conditions contraires à toutes les conventions internationales.
Comme pour le film avec Jodie Foster et Tahar Rahim, The Mauritanian, sorti il y a 4 ans. C'est un livre, le récit implacable des 13 années de détention de l'ancien prisonnier Mohamedou Oulslahi, qui a donné à Philippe Diaz l'envie de prendre sa caméra pour raconter ce que l'on ne montre pas de Guantanamo, qui va à l'encontre de toutes les conventions, toutes les lois internationales en matière de droits de l'homme, la torture assumée, les traitements inhumains qui font froid dans le dos et réveillent les traumatismes à l'heure où Donald Trump affirme vouloir agrandir la prison cubaine, quand Barack Obama a annoncé, lui, au lendemain de son investiture, son intention de la fermer.
Quand il y avait 800 personnes à Guantanamo, c'était déjà ingérable. Ils n'avaient aucune condition sanitaire, aucune condition de vie normale, ces gens-là. Alors quand il veut envoyer 30 000 là-bas, bon, ou c'est pas sérieux, ce qui est possible, ou si c'est vraiment sérieux, s'ils envoient vraiment 30 000 personnes là-bas, ah ben ils vont mourir les uns après les autres, quoi. Pour moi, c'est le pire de ce qu'a fait Donald Trump. C'est-à-dire qu'il a, plus ou moins, il a imposé cette idée que la vérité n'existe pas, ce que je dis est vrai, et le droit n'a aucune espèce d'importance. C'est pas lui qui a démarré ça, hein. Ça a démarré bien avant. À l'époque de George Bush, sa réaction sur les attentats du 11 septembre, c'était déjà ça. C'est-à-dire, le droit national ne s'applique pas. Il y a quand même des lois américaines très précises sur le fait qu'on ne peut pas torturer les gens, etc., etc. Le droit international ne s'applique pas, même si toutes les conventions signées par les États-Unis ont un bannissement total de la torture. Et si vous voulez, c'est extrêmement dangereux parce que non seulement, bien sûr, c'est totalement inacceptable qu'un pays comme les États-Unis ne respecte aucune forme de droit, mais en plus, ça donne la porte ouverte à tous les autres pays. On est dans une situation très, très grave, quoi.
Et au moment du tournage, il n'imaginait sans doute pas que le film serait autant d'actualité aujourd'hui. Philippe Diaz, avec I Am Gitmo, arrive au cinéma un peu comme une piqûre de rappel, soutenue par Amnesty International, qui l'a programmé jusqu'au 31 mars dans le cadre de son festival pour les droits humains. Pour mémoire, ce sont plus de 800 prisonniers qui sont passés depuis 2002 par Guantanamo, tous accusés d'avoir participé aux attaques du 11 septembre, la plupart vendus aux Américains contre une prime par un voisin. 37 y sont toujours, le plus vieux a 89 ans et le plus jeune en a 13.
Et c'est à partir du quotidien de ces détenus que le cinéaste a composé le personnage qu'on suit dans le film.
Alors c'est une fiction composée à partir des témoignages d'anciens détenus agrégés autour d'un personnage d'instituteur qui s'appelle Gamel Sadek, enlevé chez lui en Afghanistan par des soldats américains sur une dénonciation de voisinage, envoyé à Guantanamo où pendant 10 ans il aura subi tous les sévices. Tahar Rahim dans The Mauritanian avait donné déjà un visage à la souffrance de ses prisonniers. Mais avec ce film, I Am Gitmo, on va encore un cran plus loin dans la violence, dans l'innommable. Sur le plan formel, on n'est pas dans la grosse production américaine, mais le résultat est impressionnant. Philippe Diaz, qui vient à l'origine du documentaire, est connu pour ses films engagés, et le tampon fiction n'enlève absolument rien à la force de ce film, celui-ci particulièrement important pour lui.
Personne n'a le droit de tourner à Guantanamo, donc vous ne pouvez pas en faire un documentaire. J'ai lu tous les livres qui ont été publiés, tous les rapports de presse, et j'ai créé un personnage, je ne voulais pas nommer aussi des gens à qui ça pourrait poser des problèmes. Tous ces 800 personnes passaient par le même chemin, les mêmes tortures, les mêmes étapes. Ils étaient immédiatement envoyés en interrogation. Où est Bin Laden? Première question. Et la majorité étaient des paysans. Ils ne savaient même pas qui était Bin Laden. Ils ont tellement été endommagés, on va dire, par les tortures qu'ils ont subies, qu'ils sont dans un état psychologique dramatique. Tout est vrai dans le film. C'est arrivé à tous ces gens-là. Et je n'ai rien ajouté pour le rendre plus dramatique, etc. J'en ai plutôt enlevé, c'est-à-dire parce qu'il y a peut-être dans le film 10% de ce que les gens subissaient vraiment. Pour moi, c'est une des plus graves atteintes aux droits de l'homme qu'il y a eu au XXe siècle ou au XXIe siècle.
Le film s'appelle I Am Gitmo. Il est au cinéma ce mardi. Corinne Pellissier, merci
mercredi.
Beaucoup. Mercredi. Mercredi, dites donc.
Wednesday.
Ça va ?